Ma vie m'appartient.
Vous êtes en état d'arrestation.
Vous êtes là pour être puni.
En prison.
Dans une prison, c'est pour vous punir. C'est pas seulement vous prouver liberté, c'est pour vous punir. On vous tient là, vous ressortez comme vous étiez, ou pire, et c'est tout.
Ils disent qu'on est menaçant. On est menaçant.
On est menaçant.
Ils sont que des menteurs. Ils sont que des menteurs.
Ils sont que des menteurs.
Laisse pas béton.
Bienvenue sur Radio Panique 105.4 FM. Et bienvenue dans l'émission Laisse pas béton, l'émission qui donne la parole aux personnes concernées par la prison. Moi, c'est Maya.
Moi, c'est Mia.
Duo légendaire, également connu sous le nom de Miami.
Aujourd'hui, avec nous sur le plateau, notre invité Coraline. Coucou Coraline. On voulait faire une émission spéciale pour la journée des violences faites aux femmes, qui était le 25 novembre. Toute l'émission a été conçue en mixité choisie, sans mexis. D'autres personnes nous rejoindront aussi sur le plateau en cours d'émission.
Aujourd'hui, nous allons parler des femmes en prison et discuter de l'impact que la tôle a spécifiquement sur les femmes. Avec nous donc, comme invité, Coraline, qui a été incarcérée 4 ans dans une section pour femmes en Espagne.
Merci d'être avec nous ce soir, Coraline. Avant d'entrer dans le vif du sujet, un petit tour par les actualités en prison avec notre chère et tendre Laure.
Oui, bonjour, excusez-moi. Donc, merci d'être avec nous et je suis là pour vous dire l'actualité. Donc, on commence par l'actualité brûlante. Ce jeudi 19 novembre, un détenu a mis le feu à sa cellule à Saint-Gilles. Le détenu a allumé son matelas avec un briquet et a mis le matelas contre la porte. L'équipe de nuit est rapidement intervenue et a éteint l'incendie. Le médecin de garde s'est rendu sur place. Le détenu n'était pas blessé. Il n'avait pas de codétenu. Il était le seul dans sa cellule. Sans qu'un message clair soit envoyé, c'est quand même un signe de détresse et ou de protestation contre des conditions de détention. Et ça a, à ce titre, tout notre soutien.
Justice pour Adil.
Le parquet a demandé ce jeudi 26 novembre un non-lieu pour les policiers impliqués dans la mort d'Adil, ce jeune de 19 ans du quartier d'Anderlecht qui avait percuté un camion de police ou qui avait été percuté par un camion de police à Kureghem suite à une course-poursuite le 10 avril dernier. Le non-lieu signifie que les policiers sont considérés comme innocents sans même qu'ils passent devant un juge. Suite à l'enquête, le procureur estime qu'il n'y a pas assez d'éléments pour poursuivre les policiers. À la suite de cela, des rassemblements ont eu lieu le jeudi soir et le vendredi 27 à 14h. Une centaine de personnes étaient rassemblées sur la place du Conseil. Les médias ont peu relayé cet événement qui a amené des arrestations violentes, des attentes longues et des fouilles indécentes pour certaines d'entre elles et eux. La famille d'Adil a appelé au calme et le 30 novembre, elle fait parvenir un communiqué. Il et elle affirment que l'enquête n'est pas close et demande un procès public. Face au déni de reconnaître la responsabilité des policiers qui l'ont percuté et ceux qui ont lancé la course-poursuite, elle demande ce qui justifiait de rendre cette poursuite prioritaire. Et que le message selon lequel la police peut arrêter n'importe qui à n'importe quel prix est inadmissible. Nous envoyons un énorme soutien à toute la famille, aux proches, à toutes les victimes de violences policières, aux émeutiers, aux émeutières, et à celles et ceux en colère devant ces injustices meurtrières.
Ces murs, faites tomber les plexis avant l'abolition, faites tomber les matons.
Avant d'abattre ces murs, faites tomber les plexis, avant l'abolition, faites tomber les matons. Plusieurs manifestations spontanées de proches en Wallonie et en Belgique, avec des banderoles « Arrêtez de nous ignorer », consultez les concernés. Le collectif de familles détenues de 12 prisons belges et le collectif de lutte anticarcérale étaient présents à Huy, le 19 novembre. Le 27 novembre, devant le ministère de la Justice et devant le Palais Egmont. Et le dimanche 6 décembre, hier, devant la prison de Louvain. Il dénonce une situation dans laquelle rien ne change depuis le corona. 6 revendications sont portées. Tout d'abord, elle revendique la concertation obligatoire des détenus en tout temps et leurs proches dans toute décision de gestion à intérêt collectif en milieu pénitentiaire. Il réclame ensuite un droit inconditionnel aux visites. Ensuite, il réclame des conditions de vie décentes à l'intérieur des prisons, au niveau financier, sanitaire et social, une cohérence dans les mesures sanitaires entre ce qui est demandé à l'intérieur des prisons et ce qui se passe à l'extérieur. Et enfin, le retour des aménagements de peine, des permissions de sortie, des congés pénitentiaires et la libération d'un maximum de détenus afin de protéger leur santé en retrouvant un environnement sain. Au moment de la manifestation à Huy, le ministre de la Justice, Vincent von Kickenborn, promettait aux proches des assouplissements pour la période de Noël. Et dès aujourd'hui, le retour des visites, avec des mesures sanitaires strictes, est mis en place. À nouveau, plexi, masque et interdiction de contact physique cependant. Ce que ne dit pas le ministre, c'est que par derrière, il prépare une loi Corona bien salace. Voilà, vous venez d'entendre non pas une initiation aux percussions pour un enfant de 3 ans, mais bien un solo de batterie de notre cher ministre de la Justice, Vincent von Kickenborn, qui nous montre sa facette punk dans l'émission Sterren and Cometen sur TV6, pardon, il y a quelques années, et la vidéo est disponible sur YouTube si vous le désirez. À la fin, il explosera même une télé sur le pavé, comme si tout le monde pouvait se le permettre sans représailles. Sa reconversion de batteur à ministre est sans doute heureux pour le rock, mais c'est bien dommage pour la justice puisqu'il continue dans tous les cas de taper mal, de taper fort et pas dans les temps. Van Quickenborn a promis aux proches des visites à Noël et en même temps il prépare dans le dos cette loi Corona sur laquelle il travaille depuis le début de son mandat et qu'on peut lire le 19 novembre dans Le Soir. Les permissions de sortie, les congés et les détentions sont limitées, sont suspendues jusque mars 2021. Les seules exceptions seront pour des raisons humanitaires ou si la suppression du congé risque de mettre en péril le reclassement du ou de la détenue. Ce sera à la direction de la prison de décider de ça. La loi Corona ne prend aucune mesure sanitaire pour les prisons. Elle ne permet pas de libération et maintient la surpopulation carcérale. Elle prévoit des visioconférences pour les procédures, sauf pour les affaires d'assises. Aucune information supplémentaire n'est donnée quant aux visites hors surveillance. Et si cette loi est approuvée au Parlement, elle justifierait pour pas mal de juristes de saisir la Cour constitutionnelle car elle constitue purement et simplement une atteinte aux droits fondamentaux. En attendant, les manifestations de proches ont continué et vont sûrement continuer. Durcissement des peines. Des chiffres ont été publiés à ce propos dans Le Soir. Selon Annie DeVos, administratrice générale des maisons de justice en Fédération Wallonie-Bruxelles, il y a une dizaine d'années, on avait environ 60% des détenus qui pouvaient sortir en libération conditionnelle, et ce chiffre est tombé à 28%. Ce qui veut dire qu'en 2019, deux fois plus de détenus sont allés jusqu'au bout de leur peine qu'en 2007. Donc, la faute à une législation qui s'est durcie, ainsi que les conditions des détenus. Les tribunaux d'application des peines existent depuis 2007 et expliquent en partie cela. En 2013, c'est aussi aux détenus de faire lui-même la demande de libération conditionnelle, alors qu'avant, il y avait une revue systématique de sa situation. Et en 2019, une nouvelle législation a renforcé les conditions d'admissibilité. C'est encore un choix politique à faire, libérer ou enfermer toujours plus et toujours plus longtemps.
Et pour ces informations, Laure. Alors, Coralin est venu nous parler de son expérience.
Est-ce que tu penses que la prison, c'est fait pour les hommes et qu'elle est fabriquée pour eux ?
Je ne sais pas si c'est vraiment pensé différemment pour les hommes ou pour les femmes. En tout cas, le monde des hommes et des femmes dans la prison, il est fort séparé. On se croise rarement. Donc dans les faits, c'est le même programme pour tout le monde, en fait, la même nourriture, les mêmes horaires, la même cellule, juste la configuration des blocs et les couleurs étaient différents. Chez les femmes, par exemple, on avait une sorte de lilas un peu dégoûtant. Chez les hommes, ils avaient de l'orange ou du bleu, voilà. Par exemple, oui, les hommes, ils étaient séparés par type de délit dans leur bloc. Il y avait un bloc pour ceux qui étaient protégés, un autre qui était pour la psychiatrie, mais celui-là, il était mixte. Et on peut dire que dans chaque bloc, tu as une section pour l'infirmerie, les sanctions, les entrées. Donc c'est comme s'il y avait des prisons dans la prison, Chaque section a sa cour, son réfectoire, ses douches, ses cellules, ses cabines de téléphone, ses gardiens. Voilà.
Et est-ce que toi, tu dirais que la prison, elle est sexiste ?
Sexiste, oui et non. En fait, oui, parce que dans un sens, tu vas revivre un peu toutes les discriminations et les agressions que tu vis en tant que femme hors de la prison. Tu vas les revivre à l'intérieur. Et en même temps, on peut dire que non, parce que tout le système pénitentiaire, il est pareil pour les hommes et les femmes. Je pense juste comme différence, peut-être le travail. Nous, les femmes, on devait trier les boîtes de sparadrap, mettre 10 ronds, 10 longs dans une boîte, remettre l'étiquette. Et voilà, on était payé 3 centimes la boîte. Et je pense, enfin, les hommes, on savait qu'eux, ils avaient des trucs un peu plus marrants, quoi, des vis et des boulons. Et voilà. Mais en même temps, on avait les mêmes horaires, la même nourriture, t'as droit au même nombre d'appels. Donc, il n'y a pas de discrimination officielle, quoi.
Et pour les serviettes hygiéniques, comment ça se passe dans les prisons espagnoles ?
Eh bien, en fait, quand moi, je suis entrée, donc en 2008, c'était le début de la crise économique, on va dire. Et donc, normalement, on avait droit à un paquet tous les mois, avec un rouleau de papier toilette, un savon, vraiment le basique, quoi. Et puis, au fur et à mesure des années, on en a eu un tous les 2 mois, voire plus. Donc, les serviettes, en fait, tu dois les acheter toi-même, ou sinon, tu mets une tonne de papier toilette dans ta culotte, ou tu te débrouilles, quoi.
Ouais, on s'est renseigné un peu en Belgique, et du coup, en Belgique, dans les prisons pour femmes, à ton arrivée en prison, tu reçois normalement le kit d'hygiène de base aussi, qui n'est dans les faits pas toujours reçu. Et en plus, dans ce kit, il n'y a pas de serviettes hygiéniques qui sont considérées comme non essentielles par l'administration. Et donc, il faut continuer donc acheter les serviettes. Mais en Belgique, depuis 2018, en dehors, j'espère qu'en dedans, c'est pareil aussi, les protections périodiques, elles sont taxées au même titre que les produits de première nécessité, ce qui n'était pas le cas avant. Donc, c'est-à-dire que la TVA sur les serviettes hygiéniques est de 6% au lieu de 21%. Cependant, dehors comme dedans, il faut les payer. Donc une charge financière qui revient aux personnes ayant des menstruations. Génial. En prison, il y a aussi parfois des serviettes sociales. Tu en reçois une par jour, je ne sais pas à quoi elles ressemblent. Et à part ça, c'est un peu système bricolage, comme tu disais, des chaussettes, du papier toilette, etc. En sachant qu'en théorie, tu reçois... Donc c'est en théorie, mais en pratique, pas sûr que tu reçoives ce à quoi tu as droit, quoi. Tu reçois qu'un rouleau de papier toilette par semaine, donc c'est galère si tu as tes règles et le nez qui coule en même temps.
Et sinon, en Belgique, il y a l'association Bruxelles qui distribue des serviettes hygiéniques à des personnes dans la précarité, donc à des personnes en rue, mais aussi à des personnes en prison. Donc n'hésitez pas à aller voir leur site internet et à leur amener des serviettes hygiéniques dans un de leurs points de collecte. Donc le site, c'est Bruxelles, B-R-U-Z-E-2-L-E.
Point B-E,
ouais. donc on va un peu changer de sujet. Et donc, une autre question, est-ce que t'es considéré, est-ce que tu penses finalement qu'en prison, t'es considéré autrement qu'en tant que femme que par rapport aux hommes ?
Alors oui, je pense que tu es considérée différemment parce que la société considère les femmes en prison différemment que les hommes, même si ils subissent le même traitement. Donc seulement les conséquences de l'enfermement, je pense que c'est différent pour les femmes. Moi, quand je suis entrée en prison, justement, je me disais que heureusement, j'avais pas d'enfant. Parce que je trouvais ça assez terrible. Enfin, je voyais les co-détenus, mères de famille... qui pleuraient beaucoup, qui pensaient beaucoup à leurs enfants, et certaines, vraiment au bout d'un certain moment, se demandaient si c'était vraiment important et pas égoïste de faire venir ses enfants en prison, en fait, parce qu'elles avaient très envie de les voir, et en même temps, elles savaient qu'elles les faisaient rentrer dans un monde où, voilà, ils se retrouvaient face aux gardiens, ils se retrouvaient face à sa condition de détenu, et que voir sa mère en prison, ça doit être horrible, enfin bon, voilà. Et puis en même temps, paradoxalement, dans la prison, nous, on était le bloc des femmes, je dirais qu'on était un peu la cerise sur le gâteau parce qu'il y avait une autre prison à côté de 2000 détenus où il n'y avait pas de bloc avec des femmes. Et on savait que ces détenus-là avaient très envie de venir dans notre prison, même si eux avaient une piscine, parce que chez nous, il y avait des femmes. Donc on était un peu comparés.
C'était soit la piscine, soit
voilà,
les femmes, quoi.
Voilà. Et par contre, dans l'autre sens, ben, les femmes, nous, on n'avait pas d'autre endroit où aller, parce que c'était la seule prison pénale pour femmes à Barcelone, quoi. Et aussi, je dirais qu'en tant que femme, à l'intérieur de la prison, on était fort valorisés par les autres détenus hommes, parce qu'ils étaient 1500, qu'on était 200, et que tous les hommes rêvaient d'avoir une copine dans la prison, quoi. Donc, voilà, on disait, les vrais mecs, ils ont une femme, quel que soit leur âge ou leur état de santé, quoi.
Oui, à propos de la différence genrée des conséquences de la prison, on voulait vous lire un extrait du livre « Pour elles toutes, femmes contre la prison » de Gwenola Ricordo. C'est un livre qu'on conseille fortement par ailleurs et voilà qui a fait écho avec ce que tu nous racontes.
À durée de peine et à condition de détention équivalente, les conséquences sociales et personnelles de l'incarcération sont plus importantes pour les femmes que pour les hommes. En effet, les femmes sont plus stigmatisées par leur passage en prison que les hommes. Elles se retrouvent plus isolées, d'abord parce que les prisons pour hommes sont bien moins nombreuses, parce que les prisons pour femmes sont bien moins nombreuses que celles des hommes, et qu'elles sont donc souvent incarcérées dans des établissements éloignés des lieux de résidence de leurs proches. Comme dans d'autres épreuves, les femmes, lorsqu'elles sont en prison, se retrouvent davantage seules que les hommes. Autrement dit, les hommes quittent bien plus souvent les femmes qui sont incarcérées que ne font les femmes dont les conjoints ou compagnons sont en prison. De plus, les femmes incarcérées ou ayant été incarcérées ont moins de chances de retrouver un partenaire que les hommes dans une situation similaire. En fait, le soutien que les femmes reçoivent vient essentiellement d'autres femmes. Par ailleurs, lorsque les femmes sont incarcérées, leurs enfants risquent davantage que dans le cas de l'incarcération des hommes d'être placés dans une institution ou auprès de personnes extérieures à leur famille.
Est-ce que, Coraline, tu veux réagir à ce texte ?
Ouais, ben, non, enfin, je me disais que j'étais tout à fait d'accord et que c'est vrai.
Ok. Eh bien, on va passer du coup à une petite pause musicale avec,
en exclusivité,
un extrait inédit
d'une chanson inédite.
On écoute « Mettons le feu ».
Mettons le feu aux prisons.
Dans l'espace béton sur Radio Panique 105.4. Vous venez d'écouter Mettons le feu, un extrait d'un nouveau groupe qui n'a pas encore trouvé son nom. N'hésitez pas à nous envoyer des suggestions, on attend la sortie de leur clip.
Alors, on est de retour en plateau avec Cora. Et donc, on se demandait, une question en plus, si les matons, ils vous considéraient autrement que les hommes à l'intérieur des prisons.
Nous considérer autrement, je pense pas, parce que pour eux, je dirais qu'en général, bah, si t'es en tôle, que tu sois un homme, une femme, c'est pareil. T'es une merde et t'as pas de droit, et voilà. T'as été condamné, t'es enfermé. Ils s'en foutent un peu de ton histoire ou de ce qui t'a conduit en prison. T'es là, et donc c'est pareil, le même traitement pour tout le monde, quoi. Mais voilà, je pense à une gardienne un jour qui m'avait dit qu'elle venait du bloc 4 des hommes et que maintenant elle était chez les femmes et qu'elle trouvait quand même que bon, chez les hommes, ils faisaient beaucoup d'exercices, ça bougeait beaucoup, c'était vraiment voilà, plein de testostérone et que...
Stylé.
Ouais, et que nous, les femmes, franchement, on était assises par terre à se lamenter, qu'on bougeait pas, enfin... Bon, moi, j'avais un peu halluciné et je me disais, mais en fait, c'est parce qu'on vit l'enfermement aussi autrement. Si tu avais tes enfants dehors et toute ta famille à gérer avec 4 appels téléphoniques par semaine, voilà, tu vas pas aller faire du sport toute ta journée. Tu as d'autres choses à penser, quoi, en fait. Mais
oui, tu t'organises, en fait. Enfin, tu dois t'organiser.
Ouais. Et en plus, bon, c'est vrai que les gardiens, eux, ils ont dans leur salle, voilà, ils ont un ordinateur, ils ont accès à ton dossier, en fait. Donc, ils savent pourquoi tu es en prison. Et donc, ils considèrent aussi les détenus en fonction de leur dossier, quoi, de ce qu'ils ont lu sur les gens. Et ça arrive qu'ils interfèrent dans les relations entre détenus en te donnant une information que tu n'es pas censé avoir, enfin... C'est aussi, finalement, on te dépossède un peu de ta vie privée, puisqu'ils vont aller raconter pourquoi tu es en prison, ou voilà, te donner des informations, même sur des détenus que tu connais pas. Ils vont dire, ah, mais un tel est là pour viol ou pour pédophilie. Et toi, tu te dis, mais en fait, j'ai rien demandé, ou c'est peut-être à la personne de le dire quand il sera prêt à le dire, ou voilà. Donc. Je sais pas s'ils te considèrent autrement, mais en tout cas, oui, ils ont une position, ils prennent une place particulière dans la grande machine.
Et justement, comment ça se passe, les relations en prison ?
Alors, en Espagne, ce qui est particulier, c'est qu'il y avait donc une vie sociale qui se construisait entre les différents blocs à l'intérieur de la même prison. Donc, on n'était pas obligé de mettre un timbre sur les enveloppes pour écrire à un codétenu. Il fallait juste écrire qu'on écrivait d'un bloc à un autre bloc. Et si on voulait écrire à une autre prison d'Espagne, on pouvait aussi juste écrire de prison à prison. Donc, évidemment, il faut que tu aies le numéro d'écrou de la personne, que son nom et son prénom bien orthographiés. Et en fait, à l'intérieur de la prison, ça devient vraiment un passe-temps et un divertissement de s'écrire des lettres entre les différents blocs. Moi, par exemple, quand je suis arrivée, alors que personne ne savait que j'étais transférée dans cette prison pénale, j'ai reçu une lettre en français d'un détenu. En fait, il travaillait pour la paqueteria, donc pour les paquets d'entrée, et il a vu mon nom sur un paquet, et il m'a écrit en disant, il a compris que j'étais francophone, tout de suite pour me dire, tu dois te sentir bien seule, je peux t'aider, si tu veux on fait un parloir, je vais te soutenir pendant ta détention. Moi j'ai pas répondu, j'étais vraiment surprise en fait, je me disais en même temps ça peut être vu comme quelque chose de chouette, et en même temps tu te dis, je le connais pas, pourquoi il m'écrit, enfin C'est un peu...
Oui, et vu ce que tu disais, plutôt que les mecs sont à la recherche à fond, de se trouver une femme à l'intérieur de la prison, un petit coup attiré en visiteur surveillance vite fait, j'imagine que tu te méfies assez fort des contacts que les mecs essayent d'avoir avec toi, quoi.
Oui, et puis après, clairement aussi, j'ai vu de quel bloc ils venaient, puis j'ai appris que c'était le bloc des protégés, donc le bloc des violeurs et des pédophiles, et quand même, malgré tout, tu te dis, je vais pas aller...
T'as pas envie de te retrouver dans un parloir ou dans un truc hors surveillance avec directement, quoi, ouais. Et aussi, comment se passe le reste des contacts avec les mecs dans les endroits mixtes? J'ai entendu qu'il y avait des endroits où vous vous croisiez ou des activités ensemble et tout.
Oui. Donc, il y a vraiment moyen de croiser les hommes, surtout quand tu sors de ton bloc, puisque y a les parloirs, c'est commun. On n'a pas les mêmes horaires et tout ça, mais quand on se dirige vers les parloirs, on peut croiser des détenus. Du coup, tu peux, soit si tu croises pas ton copain, si tu as ton copain ou ton mari dans la prison, tu vas croiser un de ses co-détenus, alors tu peux vite lui dire un petit mot qui va passer à ton mari. Fin... Et les informations, elles passent assez rapidement d'un bloc à l'autre, autant par courrier que même par les fenêtres, en fait. Comme les blocs sont assez proches, il y avait moyen de se parler par la fenêtre. Et il y avait des sorties mixtes. Après, c'est pas tout le monde qui avait le droit de sortir en même temps, parce qu'ils n'allaient pas sortir 1500 personnes en même temps. Mais il y avait quelques spectacles, des trucs un peu organisés où tu sors une heure. Et c'était l'occasion, tant pour les hommes que pour les femmes, de se faire jolies, de se parfumer. Il y en a plein, elles allaient voir leur mari, elles étaient hyper contentes, voilà. Et c'était aussi l'occasion de s'échanger notre PETA, on appelait ça. C'était ton numéro d'écrou, ton nom, ton prénom. Tu l'écrivais sur un petit papier, puis tu le donnes aux détenus avec qui t'as envie de commencer à t'écrire, quoi. Et je pensais, il y a une différence entre les hommes et les femmes, c'est que les femmes qui avaient un mari à l'extérieur ou qui avaient la chance d'avoir des visites, des paquets, d'être soutenues par leur famille, elles sortaient pas au théâtre parce qu'elles avaient pas d'intérêt en fait à se faire un copain dans la prison parce que tandis que les garçons, eux, ils avaient vraiment tous hyper envie de sortir et d'essayer d'avoir un nom et de... Parce que les parloirs étaient vraiment séparés entre ceux qui se font à l'intérieur de la prison et ceux qui se font avec la famille ou l'extérieur. Donc tu pouvais vraiment avoir des communications et des rendez-vous intimes entre détenus. C'était vraiment fort séparé de ce que tu peux avoir avec si tu as un contact avec l'extérieur, quoi.
En termes de genre d'horaire et d'espace
Donc, par exemple, les vendredis, c'était le parloir entre gens entre détenus, en fait. Et les samedis et dimanches, c'était pour la famille, quoi.
Et j'imagine que ça pouvait arriver que des femmes tombent enceintes en détention. Comment ça se passe, alors?
Oui, ça arrivait quand même assez souvent. Dans le bloc des femmes, on avait accès à l'avortement. Je pense par exemple à une fille de 25 ans, elle s'était envoyée en l'air dans les toilettes pendant une sortie au théâtre. Ça arrivait quand même souvent que les gens s'aiment, ils se rapprochent, ils ont envie de s'envoyer en l'air, ils font quand même bien ce qu'ils veulent, quoi. Sauf que il n'y a pas de distribution de capotes, donc en prison, en tout cas en Espagne, tu avais une capote quand tu étais dans le lieu de visite sans gardien, quoi. Tu avais droit à une capote, quoi. Et donc, évidemment, les filles ne sortaient pas au théâtre et les garçons non plus n'avaient pas de capote sur eux. Donc, il y avait quand même pas mal de filles qui tombaient enceintes. En fait, le temps qu'elles se rendent compte qu'elles n'avaient plus leurs règles, si elles ne voulaient pas garder l'enfant, elles allaient vite chez le docteur, qu'on appelait le vétérinaire. Donc, c'est pour vous dire comment on était bien traités. Et en fait, il te donne une pilule et tu vas avorter dans les toilettes et c'est tout, il n'y a rien, quoi. Et il y a quand même pas mal de filles qui gardaient leur bébé et celle-là, elle vivait... elle restait dans la prison pendant tout le temps où elles étaient enceintes jusqu'au vraiment le dernier moment, quoi, le moment d'accoucher. Elles étaient emmenées, menottées à l'hôpital pour accoucher. Et ensuite, soit elles revenaient dans le bloc des femmes sans leur bébé, soit elle partait de nouveau à la maison d'arrêt où il y avait une section pour les mères. Et là, elle pouvait rester 2 ans avec leur enfant.
Et après ces 2 ans, elles étaient renvoyées à leur bloc d'avant, quoi. Et le bébé, il...
Ça dépend vraiment de l'histoire familiale de chacune. Ça arrive aussi que, par exemple, le temps que... Pendant tout ce temps-là, Belle-Marie a été libérée et donc il vient quand même faire les visites de sa femme et de son bébé. Et puis au bout des 2 ans, il devra prouver qu'il est capable de s'occuper de l'enfant et il va pouvoir le prendre. Ou bien la famille de la maman ou la famille du papa vont s'en occuper. Mais donc, généralement, ces enfants sont placés, quoi. Surtout parce qu'ils sont nés en prison, donc c'est déjà aussi un stigmate assez terrible. Et donc... les assistants sociaux, tout ça, ils sont quand même fort au taquet là-dessus. C'est aussi très mal vu de garder ton bébé, en fait, quand t'es en prison.
Pour parler de la situation en Belgique, les femmes accouchent aussi plutôt dans des hôpitaux. Donc on sait que les femmes de Berkendal, elles accouchent plutôt à l'hôpital d'Ixelles. Et les enfants peuvent rester 3 ans en cellule avec leur maman, donc plutôt que 2 en Espagne. Et il y a par exemple l'association Relais Enfants Parents qui s'occupe vraiment de faire le lien entre les enfants et les deux parents incarcérés tout au long, même après ces 3 ans, quoi. Donc,
Par rapport aux accouchements, du coup, je pense que selon ce que tu as fait, il y a des femmes menottées ou pas. Et du coup, j'ai une copine sage-femme qui m'a raconté l'histoire d'une autre pote à elle, sage-femme. En fait, les femmes qui accouchent, elles sont accompagnées par des matons. Et en fait, c'est arrivé que le maton rentre pendant l'accouchement. Donc un maton, mec, elle n'a rien à voir, qui rentre pendant l'accouchement d'une femme détenue qui est menottée, qui est là. Mais en fait, non, quoi. Et c'est la sage-femme qui a dû lui gueuler dessus pour qu'il quitte la salle. Et je trouve que c'est vraiment genre t'enlever ton droit, tous tes droits, quoi. Ça va hyper loin. Vas-y que je rentre, t'as pas le droit, quoi. Voilà.
Ouais, et sur le fait d'être menottée, on voyait dans les recommandations que Iker citait, par exemple, que les femmes sont pas censées être menottées pendant des examens gynécaux ou pendant leur accouchement. Mais de nouveau, en pratique, ça arrive quand même, quoi, que ça se passe. Sinon, Coraline, tu nous en as déjà parlé un peu, mais comment ça se passe en fait la sexualité en prison ?
Moi, je dirais que la sexualité en prison, pour moi, c'est une forme de résistance. Donc, je pense que tout est fait dans la prison pour te déshumaniser, que tu finisses par plus vraiment rien ressentir. On te coupe vraiment de toutes tes sensations en fait. Avoir un peu d'intimité dans la prison, c'est pratiquement impossible parce qu'il y a des caméras partout, parce que les gardiens peuvent entrer dans ta cellule comme dans une chambre d'hôpital. Mais en fait, en prison, ils ont ils font ce qu'ils veulent, quoi. Donc, ils peuvent rentrer dans ta cellule, te fouiller. Donc, tout le système est fait pour te surveiller, te punir. Et pour moi, oui, la sexualité, c'est une manière de te connecter avec ton corps et de encore avoir un... certains contrôles sur ton plaisir, en fait. Donc, la sexualité, c'est vachement important, en fait, en prison, comme les relations par courrier, tout ça. Enfin, en vrai, en prison, c'est quand même compliqué. Soit, comme je parlais des femmes qui avaient des relations sexuelles au théâtre, sinon, il y en a quand même pas mal, mais qui ont une sexualité à l'intérieur du bloc, quoi. Donc, souvent, ça se passe avec ta compagne de cellule, où tu peux demander pour être changé de cellule, pour être avec quelqu'un, avec qui t'es tombé amoureux, ou je dirais que chez les femmes, les relations étaient quand même plus facilement assumées, parce que les garçons, ils ont toujours peur de passer pour des pédés, donc tu vois plus facilement des femmes qui se tiennent main dans la main dans la cour, ou bien soit elles essayent de garder ça secret, mais à un moment donné, ça se sait toujours, parce qu'il y a des disputes. Et on disait d'ailleurs en Espagne, il y avait une phrase où on disait « Ah, ça c'est une ataque de coño », donc « Ah, il y a une crise de chatte », donc ça voulait dire que la dispute, c'était en vrai qu'elles s'envoyaient en l'air dans la cellule et qu'en fait, elles avaient une crise de couple et que ça n'allait plus, mais Par contre, oui, ce que moi je trouvais assez étrange, c'est que même les femmes qui voilà, avaient des relations sexuelles avec leurs compagnes de cellule, elles ne se disaient pas lesbiennes. Donc, tu avais aussi des femmes qui devenaient, on disait, les petits machos, qui se rasaient les cheveux, qui faisaient vraiment les garçons, qui avaient leurs femmes en prison, quoi. C'était vraiment le couple hétéro, en fait. Et oui, j'ai rencontré aussi des femmes qui étaient des machos en prison, et puis quand elles sortaient, elles redevenaient complètement hétérosexuelles. Donc, c'est comme si c'était juste le moment de l'emprisonnement, quoi. Et que même si elles sont avec des femmes, elles vont quand même te dire « Allégouine, c'est dégoûtant ». Donc, elles se considèrent pas lesbiennes, elles ont une relation sexuelle dans la prison. Donc, ça va être plutôt vu comme un passe-temps, un besoin. On se fait du bien, et voilà, quoi. Voilà. Et oui, moi, je pense que c'est quand même hyper important, les relations sexuelles et intimes à l'intérieur de la prison. Moi, je voulais dire aussi que 99% des femmes que moi j'ai rencontrées en prison, elles étaient quelque part victimes d'un homme à un moment donné de leur vie. Et donc, y a beaucoup de discussions entre détenues et du coup, beaucoup de prise de conscience aussi autour de la sexualité, de comment elles ont été maltraitées. Et elles essayent de vivre d'autres choses. Voilà.
Comment ça se passe le rapport avec les matons, enfin la relation qu'il peut avoir avec les matons?
Oui, alors les matons, c'est des équipes mixtes dans tous les blocs. Chez les femmes, il y a un peu plus de matons femmes parce que la seule chose que les matons mecs n'ont pas le droit de faire, c'est la fouille à poil. Encore heureux en fait, mais voilà. Donc il y a un peu plus de femmes chez les femmes. Et oui, clairement, tu tisses une relation avec les matons parce que tu passes des années là et voilà. La seule chose il y a une chose qu'on se disait beaucoup entre détenus qui nous faisait du bien, c'est qu'on se disait, bon, nous, au moins, on sait quand on va sortir, eux, ils en ont pour toute leur vie, quoi. Même si on n'est pas dans le même, on n'est pas dans le même rapport, mais on se disait, eux, ils ont perpète, tu vois. Et du coup, ouais, voilà, les matons, ils ont fini par les connaître. Tu finis par savoir qui va venir quel jour, quelle garde. Tu commences aussi à savoir petit à petit qui est un peu gentil ou qui est hyper influençable, avec qui tu peux faire une blague, avec qui tu peux pas du tout faire de blague. Et évidemment, comme il y a des relations entre détenus, il y a des relations détenus-matons. Mais ça, c'est vraiment un sujet tabou. C'est quelque chose que les filles ne te diront jamais parce que c'est très, très mal vu, évidemment, de coucher avec un gardien. Et après, tu sais jamais vraiment si elles sont à 100% consentantes, puisqu'il y a toujours quelque chose de complètement déstabilisé dans le rapport de pouvoir. Et oui, c'est arrivé qu'il y avait un gardien, on avait toutes bien remarqué qu'il était amoureux d'une fille puisqu'il la suivait tout le temps, il la collait partout, il voulait tout le temps lui parler, résoudre tous ses petits problèmes dans la prison. Mais du coup, il devenait hyper violent avec les autres, quoi. Dès qu'il y avait un souci, tu te disais, elle va m'envoyer son maton. C'est quand même horrible parce que d'un coup, c'est encore plus injuste. Tu te dis que c'est des embrouilles entre détenus et en fait, les matons, ils sont mêlés. Voilà, il y a un truc quand même en prison où en tant que femme, tu es propriété d'un homme, en fait, quelque part. Donc, t'appartiens à un homme, quoi.
Ouais, je trouve que c'est hardcore parce que t'entends souvent dans la société une espèce d'injonction à pas vendre ton corps, machin et tout ça. Et puis, en fait, tu rentres en prison et... Même c'est quelque chose qui peut être vu comme délit ou qui peut être incriminant, de faire du travail du sexe ou quoi. Et en fait, en prison, t'es complètement poussé à ça. Je pense que là, il y a plein de cas où ça peut ne pas du tout être un choix.
Oui. Et les hommes le sont aussi. Enfin, je pense à un gardien aussi qui était, qui a été transféré dans notre bloc. Bon, on savait... qu'il était homosexuel, il le disait, il n'avait pas vraiment de... Et il disait aussi, moi j'ai offert un MP3 à mon copain, son copain c'était un détenu, quoi. Et à un moment donné, ça va pas. Et du coup, les autres gardiens l'ont su, enfin ça s'est su, et il a été transféré chez les femmes, c'est tout, point barre, quoi. Et chez les hommes, quand ils ont ça avec des femmes, finalement, ce maton violent, on a réussi à le faire transférer de bloc. Mais c'est hallucinant parce qu'ils ont vraiment tout le pouvoir. Ils peuvent rentrer de la drogue, ils peuvent te harceler. Et je pense, oui, qu'il y a des filles qui ont accepté certaines avances parce que finalement, elles se retrouvent à un moment donné où elles n'ont plus le choix. Quand tu te retrouves avec quelqu'un qui est tout le temps derrière toi, tous les jours, qui a tout le pouvoir quelque part, tu peux plus facilement, à un moment donné, tu te dis qu'il me foute la paix, quoi. Mmh. Mais, ouais.
Et tu disais que, du coup, vous avez réussi à faire changer un gars de bloc, un maton de bloc. Est-ce qu'il y a une sororité entre détenus? Vous arrivez à créer des résistances et tout ça?
Oui, par exemple, autour de ce gardien-là, c'était vraiment grave. À un moment donné, à plusieurs, on s'était dit, il faut faire quelque chose parce que ça ne va plus, quoi. Et moi, j'avais trouvé un livre qui s'appelait « Comment se défendre dans la prison » qui était assez bien fait parce qu'à la fin du bouquin, il y avait plein d'exemples d'écrits, comment bien écrire pour avoir une demande... En fait, écrite selon le langage administratif et pénitentiaire, quoi. Donc, un premièrement, un deuxièmement, selon tel article, selon tel truc. Et en fait, même si tu comprends rien, tu dois vraiment suivre une base juridique, en fait. Et après, dedans, tu as un espace pour mettre tes arguments. Et voilà, donc on a réussi à une quinzaine de filles à écrire à la sous-directrice pour que ce soit... confidentiel, donc que les matons n'ouvrent pas ton courrier. Il y a aussi toute une manière de faire. Pour connaître vraiment tous les rouages, moi, j'ai quand même mis au moins 2 ou 3 ans, quoi. Déjà, le temps que je parle la langue et puis que je sois vraiment... que je me sente assez en confiance, que je ne vais pas me faire griller, en fait. Parce que si tu te fais griller, ils vont te harceler. Ils vont se dire, ah, mais celle-là, elle a fait en sorte qu'il y ait un des matons qui soit transféré. Solidarité entre matons, vite, brisons les prisonnières, quoi. Enfin, ça ne les intéresse pas, parce que s'ils ont 200 femmes qui se mettent ensemble, même si tu veux foutre le bordel, tu peux. Mais après, tu as toutes les conséquences derrière, quoi. Et il y en a beaucoup, des conséquences, en fait.
Et les matons, ils essayent de... Enfin, comment ils gèrent avec la solidarité entre meufs
Mais ils te cassent, quoi. Ils divisent à fond. Donc, ils vont vraiment essayer de monter les gens les uns contre les autres, de dire, ah, mais si toi, tu fais ceci, moi, je serai gentil là. Mais alors, enfin... Donc, ils vont quand même te faire du chantage, te sanctionner. Donc, pour ça, eux, leur arme principale dans la prison, c'est qu'il y a une prison dans la prison, c'est le département des sanctions, où tu vas être enfermé, isolé... au minimum 8 jours tout seul. Et 8 jours tout seul, déjà, c'est terrible, mais ça peut aller jusque... Ça peut être infini, en fait, la sanction, parce que à l'intérieur de ta sanction, tu peux être resanctionné pour plein de choses. Tu peux pas... Si tu réponds de travers, quoi que ce soit, enfin... Donc, ils vont allonger ton temps de sanction jusqu'à ce que, vraiment, tu sois bien brisé, quoi.
On approche doucement de la fin de l'émission. Une question, Coraline, est-ce que tu te considères comme féministe anticarcérale? Et si oui, en quoi ça consiste? Enfin, comment est-ce que tu vis ton engagement?
Quelle grande question. Oui, je veux dire que moi, quand je suis sortie de prison, en vrai, je me considérais comme rien du tout. Donc, j'étais vachement cassée, j'arrivais pas trop à me considérer autrement que comme juste... une extolarde forcément agressive, inadéquate, inadaptée. Quand je suis revenue à Bruxelles, je me suis un peu rapprochée du milieu lesbien parce que je me disais qu'après avoir vécu autant d'années avec des femmes, ce serait impossible de vivre avec un homme, en fait, et que j'avais besoin de relations avec des femmes et que je me sentais plus safe dans le milieu lesbien. Et puis, petit à petit, en fait, en assumant mon passé, en assumant mon histoire de plus en plus, je me suis rapprochée des luttes anticarcérales. C'est vrai que j'ai eu beaucoup de discussions, de disputes enflammées avec des gens qui avaient un discours très basique, en fait, sur la prison, qui me disaient « oui, mais bon, c'est bon, en prison, vous êtes nourris, logés, vous avez même la télé, donc de quoi vous vous plaignez, en fait ?» Et ce discours-là, moi, il me faisait vraiment péter les plombs. Et en même temps, j'arrivais pas à expliquer aux gens, mais tu sais ce que c'est, toi, d'être privé de ta liberté, t'en sais rien, en fait. Et du coup, pour moi, la lutte anticarcérale, c'était en fait d'aller de me rapprocher de gens qui n'avaient pas ce discours-là, en fait, qui avaient déconstruit un peu l'idée basique qu'on a de la prison et des prisonniers. Et qui considèrent en fait les prisonniers comme des êtres humains et comme des gens qui souffrent et qui voient que le système pénitentiaire il est mortifère et cruel, quoi. Et bien sûr féministe, parce que je me considère comme une femme, donc féministe, c'est évident.
Yeah. Merci à toi de porter ces histoires et ta mémoire, la mémoire de tes co-détenus, des détenus dans la prison.
On l'a déjà dit dans plein d'autres émissions, mais la prison, c'est vraiment un truc qui met les gens à bout. Et la prison, elle tue. Et les suicides en prison, c'est une réalité, c'est super fréquent. Et bizarrement, c'est toujours bien masqué par l'administration pénitentiaire.
C'est bientôt la fin de cette 11e émission de Laisse pas béton. Et avant de big upper un bon coup, on tenait aussi à inviter au plateau des personnes pour qu'elles présentent le collectif Lavender. Coucou Victor, coucou Mousse, je vous laisse la parole.
Bonjour. Alors, nous, on est un collectif très jeune. On n'a pas encore de nom. Et on a voulu se former car on a constaté un manque d'organisation à Bruxelles liant les luttes anticarcérales et queer. Nous essayons le plus possible de travailler ensemble de manière horizontale et autogérée. Et nous nous affirmons clairement anti-autoritaires, anti-flics et contre toute forme d'enfermement, que ce soit les prisons, les centres fermés pour personnes migrantes, les frontières et aussi le placard, dans le cas des personnes homosexuelles, transgenres, intersexes et toute autre personne déviant de la norme hétérosexuelle et binaire. Le terme queer, à la différence de l'appellation LGBTQI+, est une revendication politique anti-assimilationniste, ce qui veut dire que nous ne voulons pas être inclus dans le monde des hétéros. Par exemple, les homosexuels qui vont militer pour le mariage gay, nous, on n'en a rien à foutre et nous affirmons notre différence et voulons repenser un nouveau monde en détruisant les normes cis-hétéro-dyadiques. Nous organisons en non-mixité entre personnes qui ne sont pas des hétéros cisgenres et dyadiques. Pour petite précision, une personne dyadique est une personne qui n'est pas intersexe. Et nous nous organisons en non-mixité parce qu'on a besoin de se retrouver entre personnes concernées pour créer des espaces les plus safe possibles et pour que les personnes incarcérées avec qui nous espérons entrer en contact se sentent à l'aise de parler de ce qu'elles veulent.
Moi, je vais peut-être vous dire deux mots sur qui expliquent pourquoi on a un collectif anticarcéral et queer, ou en tout cas nos réflexions à ce moment précis. Donc plutôt que de se dire que le système carcéral il est cassé, ou comme on pourrait se dire que le système migratoire est cassé ou défaillant et qu'il faudrait l'améliorer, notre vision c'est de dire qu'il faut le démanteler et proposer d'autres manières de régler nos conflits. Donc partir du principe qu'il faut réparer ce système, c'est aussi partir du principe qu'on en a besoin. Nous on préfère se dire abolitionniste ou anticarcéraux, parce qu'on refuse des systèmes qui participent à exiler, mettre en cage, torturer, punir les pauvres, les migrants, les personnes racisées, les personnes qu'ils ne considèrent pas valides ou normatives. On sait que ces systèmes, plutôt que de protéger la population, contribuent à perpétuer la violence cis-hétéro-blanche du système. On préfère aussi se baser sur les réponses qui émergent depuis de nombreuses années, telles que la justice restauratrice, réparatrice et communautaire. On veut repenser aussi des nouvelles manières de faire la justice, donc en abattant l'ancien modèle. Puisque le racisme, le sexisme, l'homophobie, la transphobie, la putophobie font partie de l'ADN même du système pénal et carcéral, on trouve que c'est compliqué en fait de vouloir le réformer. Typiquement, certaines personnes, face à la question de la transphobie en prison, par exemple, proposent de faire des prisons pour les trans, pour réduire les risques d'agression. Nous, on pense que la solution pour arrêter la transphobie en prison, c'est d'arrêter d'enfermer les gens dans des systèmes qui les oppressent. Donc pour LE, c'est la double peine. Oppressés par la société, parfois leur famille, le système scolaire, le monde de l'emploi, et elles doivent trouver des moyens de survie, elles doivent faire face aussi à des gros problèmes de santé mentale causés par ce système. Donc on ne voit pas en quoi une prison pour trans, par exemple, réglerait quoi que ce soit face à cela. Dans ce collectif, on comprend l'enfermement au sens large, donc on voudrait combattre à la fois la violence de l'enfermement carcéral, ici principalement en centre fermé et en prison, mais aussi l'enfermement symbolique que vivent les cuirs face à la normativité de cette société hétérocis blanche, dyadique et validiste. C'est pour cette même raison qu'on se dit anti-flic. On ne luttera jamais pour l'inclusion des personnes cuir au sein de la police. On veut lutter aussi contre les systèmes qui nous oppressent et qui oppressent d'autres aussi, plutôt que de chercher à y être inclus. On veut créer autre chose, basée sur des utopies comme l'horizontalité, l'égalité, l'autonomie, la réparation, l'écoute, la bienveillance aussi. On est aussi un collectif queer parce qu'on ne veut pas seulement aider les queers. Enfin, on est contre toute forme de prison pour tous, mais on se rendait compte aussi que peu de choses étaient faites pour les besoins spécifiques des personnes queer en prison. Donc on se dit aussi collectif queer parce qu'on s'inspire de pratiques et de théories queer qui questionnent la norme et on veut penser les systèmes à partir de nos espaces antinormatifs et subversifs, donc plutôt dans une optique radicale et centrée sur le care. Notre collectif, il est très jeune, donc on vient de démarrer, mais on aimerait faire des choses comme faire des caisses de solidarité avec les personnes queer détenues en centre fermé ou en prison, faire des groupes de réflexion sur justement cette intersection entre la lutte queer, les luttes anticarcérales, une critique aussi des politiques migratoires. On voudrait faire de la solidarité concrète avec les personnes détenues, éventuellement des lettres, appels, visites, du soutien aux proches de personnes incarcérées et penser aussi à comment abattre les murs concrets et symboliques qui nous oppressent. Donc tout ça, c'est assez jeune et naissant. Et ça évoluera en fonction des gens qui font partie de ce collectif, de leur énergie, mais aussi, principalement, ce sera une réponse aux besoins des personnes concernées.
Alors, nous serions très contents et contentes que des personnes concernées par la tôle et les milieux LGBTQI+, et leurs proches nous contactent. Nous voudrions s'adapter aux besoins, aux envies et aux réalités. Vous pouvez nous contacter pour rejoindre le collectif ou juste pour partager vos expériences et vos propositions, donc pas forcément sur le long terme. Notre adresse mail, c'est lavenderforever@riseup.net, LAVENDER, forever. Voilà.
Merci à présenter le collectif. On espère entendre parler de vous bientôt. Merci encore à Coraline aussi d'être venue. On va terminer.
Avant les big ups, on aimerait faire passer une petite et rapide communication. Dimanche prochain, c'est le 13-12 pour celles et ceux à Bruxelles. On vous propose de se retrouver de 13h21 à 21h13, quelque part en ville. Et pour plus de détails, écrivez-nous un message directement à l'adresse Baobab Van de Teranga, donc Teranga, T-E-R-A-N-G-A, @pm.me. Voilà, et tout de suite, maintenant, on passe au big up.
À toutes nos sœurs, big up, big up, big up, big up. À toutes les femmes en prison, à toutes les femmes au parloir. Big up à toutes les personnes en prison, à toutes les personnes qui subissent la violence du système pénal et carcéral et la répression. Force à vous.
Et encore des big up!
Et maintenant, 6XX, tour de chauffe.
Ouais. Merci pour ce petit moment de liberté. Ce sera juste un mauvais moment passé. J'en ai rien à battre ce soir. Ou bien retourne sur ton PC, branler le cul sur Nicki Minaj. Ou bien rentre chez ta mère, voir si t'as pas du ménage que tu peux faire. Dans tous les cas, ce soir. toi. Ferme-la. Chut. Ferme-la. Toi qui dirige, toi qui oblige, toi qui corrige, toi qui exige, toi qui fustige, toi qui érige, toi qui néglige. C'est pas à moi de t'éduquer la vérité. Je vais exploser tes sentiments.
L'esclavage des femmes, tout comme déclarer sa couleur de peau, régit l'esclavage. Abolition, abolition.